Nous sommes le jeudi 13 novembre, il est 21h et quelques pouillèmes de secondes sur Radio Canus en 2.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Oui, je bégaye, mais je suis vieux, c'est que voilà, c'est comme ça. Un anniversaire un petit peu trop arrosé. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Sachez que cette émission n'a d'intérêt que parce que je suis entouré de deux brillantes personnes, travailleuses et assez gentilles pour me laisser rentrer dans le studio. Je commence naturellement par celui qui passe l'intégralité de l'émission debout, tel un impitoyable physio de boîte de nuit. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Ça a l'air d'aller mieux que toi.
Romain qui, quand il ne réalise pas cette émission, d'habitude je dis avec brio, mais là non, je peux pas, anime sa propre émission à vos souhaits sur sa chaîne Twitch Ruvon avec un underscore à la fin, tous les mercredis après-midi. La dernière fois qu'elle est venue dans ce studio, elle a passé un tellement bon moment avec Romain qu'elle a publiquement souhaité mon remplacement définitif.
J'ai des preuves, on a les enregistrements, elle l'a dit.
Elle est donc évidemment ravie de me retrouver au micro ce soir. Bonsoir Bettina.
Salut.
Comment tu vas ?
Ça va. Et toi ?
Ça va plutôt bien. Je suis pas du tout en stress, je sais pas ce qui se passe. C'est pas comme si j'étais arrivé il y a 30 secondes. Bettina, instigatrice de l'événement Indie Game Lyon, qui préparera la 7e édition bientôt, dès qu'elle aura fini Citizen Sleeper 2. Et Thousand X Resist.
Oui, j'ai commencé.
Et Dispatch. Enfin, bientôt, quoi. Bientôt, hein. Ça commence bientôt, vous inquiétez pas. Ce soir, nous avons une invitée. On reçoit Morgane du studio Yolen.
Et voilà, ça commence.
J'ai dit Yoden parce que le O et le L, voilà, mais c'est ça.
C'est fou ça parce que à la base c'était deux personnages, il y avait Yoden et Yolen, et j'ai gardé le nom de Yolen qui est devenu mon studio. Mais c'était des personnages de jeux vidéo, des pseudos de jeux vidéo à la base. Ouais.
Et ben, en tout cas, merci. Ben,
bonjour.
Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir.
Ce soir, on va parler de ton travail dans le studio Yolen et du jeu Beat Badger Street.
Oui.
Avant de commencer, est-ce que tu pourrais déjà nous faire un pitch de Beat Badger Street ?
Oui, alors Beat Badger Street, c'est Vie ma vie de femme. C'est un jeu qui a pour objectif de sensibiliser au harcèlement sexiste et sexuel, plus spécifiquement dans les lieux publics et au travail. Et donc, on va incarner à la première personne une femme, on ne sait pas quoi elle ressemble, voilà, on est cette femme, et on va devoir aller à son travail. Donc ça paraît très simple, c'est une routine qu'on pratique, nous les femmes, tous les jours, et il s'avère que ce trajet est une véritable odyssée, parce que notre protagoniste va être confrontée à des harceleurs systématiquement, et qui vont avoir des discours lunaires qui sont issus de vrais témoignages, en fait, d'un catalogue de vrais témoignages de personnes qui ont raconté leur vécu et ce qu'on a pu leur dire. Et voilà.
Avant qu'on parle un peu plus du concept du jeu, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu d'abord de toi et de ton parcours.
Est-ce que, je te coupe, mais est-ce que t'as oublié ma chronique
ou
est-ce
que c'est parce que tu m'en as pas parlé ou alors je me suis pas renseignée. Mais
non, non, mais c'est vrai que
une chronique.
C'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais parce que je la fais à chaque fois
a,
et du coup.
Il y a des gens qui pensent à me remplacer. Du coup, moi, je.
Est-ce que je peux la faire ou pas?
On parle un petit peu plus du concept du jeu, Bettina, est-ce que tu voudrais bien nous parler des news des gens qui font des jeux vidéo à Lyon? Et c'était tout à fait. On coupera ça au micro.
C'est exactement ce que tu veux dire. On coupera au montage,
tout va bien se passer.
On coupera tout, Xavier, au montage, ça ira plus vite.
Ça sera plus simple. Oui, parce qu'en plus...
Pardon, Bettina.
Non, mais il n'y a aucun problème. Tout va bien. Je le prends pas mal du tout. Non, mais en plus, j'avais... il y a énormément de jeux... enfin, énormément. Il y a beaucoup de jeux dont j'ai envie de vous parler. Et donc là, j'en ai sélectionné deux. Je vais les prendre dans l'ordre chronologique de ceux qui sont sortis en premier. Et puis, j'en ai plein d'autres sous le coude. Je vous en sortirai au fur et à mesure des émissions. Maintenant, c'est dit. À chaque fois, je parlerai de jeux dans l'émission.
Tu début. Retiens, d'accord, c'est prêt, c'est bon. Tu retiens.
Bettina, c'est ça ?
Oui. Et donc le premier, il est sorti il y a 7 mois maintenant, donc le 2 avril 2025, mais en fait j'y pensais plus, donc voilà, j'en aurais parlé plus tôt, mais je l'avais juste oublié. Mais il est jamais trop tard pour en parler. C'est Black Shard de Redlock Studio, édité par Plugin Digital. C'est leur deuxième jeu. Le premier, c'était Shattered Tale of the Forgotten King, pour lequel ils avaient fait une campagne de crowdfunding qui avait fonctionné et qui avait permis de financer la production. C'est assez exceptionnel pour être souligné. Et donc ce second jeu est indiqué comme coproduit avec Enclave. En fait, il y a très peu d'infos sur Enclave, mais en gros, c'est un collectif d'artistes dans lequel on retrouve notamment le directeur artistique de Redlock Studio et puis trois autres personnes. Et en fait, ils ont fait Black Shard un peu en dehors de Redlock Studio, à 4 seulement, d'où la création de ce collectif pour séparer un peu ce jeu-là des autres productions de Redlock où il y a cette fois-ci toute l'équipe qui travaille dessus. Et donc pour vous parler du jeu un petit peu, Black Shard, c'est un jeu d'exploration à la première personne où on doit parcourir et percer les mystères d'un labyrinthe. Mais Black Shard, c'est avant tout une expérience visuelle et narrative, un voyage dans des espaces liminaux étranges et inexplorés, avec des couloirs sans fin, des architectures brutalistes, surréalistes et gigantesques. Alt 236 et Alt 9000 ont tous les deux composé les musiques du jeu. Il coûte 10€ sur Steam. L'expérience dure 5 à 6 heures quand on va au bout une première fois, mais il y a plusieurs fins. Et Redlock travaille déjà sur un prochain projet avec aussi Alt 236 et Alt 9000 aux musiques. Donc, restons à l'affût.
Est-ce que tu sais comment ça s'est passé, la sortie pour eux ? Parce que je l'avais suivi effectivement à l'époque, mais j'ai pas trop.
Bah, je les ai pas recroisés depuis. Enfin, je sais pas. Je suis pas allée chercher des infos auprès d'eux. J'ai l'impression que ça a été malgré tout un peu confidentiel quand même. Je l'ai pas vu passer dans la presse ou quoi.
Ouais, il y avait un peu un côté très arty, mais ouais. Pas forcément très mis en avant. Donc, jeu vidéo, ouais.
Ouais. Mmh.
Là, en tout cas, j'avais pu jouer à la démo. Et comme tu dis, c'est avant tout une expérience visuellement très marquante. Le côté architectural est extrêmement mis en avant et il y a quelque chose qu'on retrouvait aussi qui avait déjà dans le premier jeu, dans Shattered. C'est-à-dire qu'un Shattered était plutôt un Dark Souls et qui avait un code qui reprenait de Dark Souls, notamment ses codes narratifs très mystérieux, très vous pouvez trouver plusieurs sens à ce que vous allez voir et pour savoir comment avancer. Et là, je crois qu'ils ont mis les potards du mystère encore bien plus loin. Ce qui fait que des fois, en fait, on peut se retrouver en fait à se promener dans les couloirs sans vraiment savoir. Jusqu'à ce que d'un autre côté, il arrive un truc, on se tombe sur un truc vraiment gigantesque et majestueux. Je trouve que c'est un jeu qui avait un vrai sens du spectacle. Sans animation, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, bah avec des moyens
environnementaux.
Et donc le second jeu dont je veux vous parler, c'est un jeu en VR disponible sur le Metastore. Il s'appelle Cité Alexandrie, il est sorti le 30 octobre, sans éditeur, donc il est auto-édité. Le studio s'appelle Sirène Rouge et Cité Alexandrie est son premier jeu. L'histoire prend place à la fin des années 80 dans une France alternative dystopique. Un pays où les objets culturels sont totalement prohibés, donc les livres, les disques, les BD, tout ça. Et on doit alors gérer un réseau clandestin de trafic d'objets culturels. Cité Alexandrie mêle en fait de la gestion et surtout beaucoup de narration et des choix moraux. Il a été conçu pour être joué en position assise pour ne pas provoquer de cinétose. Alors peut-être que j'y jouerai. C'est vrai que la VR, je crains un petit peu. On doit recruter des alliés, échanger des objets interdits et organiser le réseau tout en faisant attention aux gangs rivaux et aux patrouilles de la BIC, la Brigade d'Interdiction Culturelle. Cité Alexandrie est un god game mêlant l'esprit de The Wire et de Fahrenheit 451 et il coûte 17€.
D'accord. Présenté comme ça me fait un peu penser à Relooted.
Oui.
C'est ça le nom du jeu ? Où tu es un gang de voleurs d'œuvres d'art pour récupérer les œuvres d'art dans des musées occidentaux.
Ah oui.
Pour les ramener dans les pays d'origine.
Plutôt des récupérateurs.
Techniquement, tu organises finalement des casses, puisque oui, tu vas t'infiltrer illégalement et sans autorisation dans des endroits. Mais avec cet objectif, en fait, de ramener les œuvres d'art dans les pays d'origine.
Ouais. Voilà. En gros, tu fais que voler les voleurs.
Oui, voilà, avec quelques années de décalage, mais c'est voilà. En tout cas, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à ça aussi.
Ouais.
Cette approche finalement du marché de l'art.
Oui.
Mais non, mais effectivement, en tout cas, le concept il a l'air intéressant, et c'est vrai qu'il y a tout un truc de la VR entre guillemets en position assise ou qui ne demande pas en fait de bouger dans tous les sens. Je me souviens, je rappelle des jeux comme Moss par exemple, mm-hmm, qui font ça très bien, où c'est vrai qu'on associe souvent la VR à faut bouger dans tous les sens, etc. Il y a pas mal de jeux en fait qui aussi, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de jeux qui permettent d'avoir cette approche là ou qui est en fait un peu plus chill et qui est surtout adapté à des gens qui vont être sensibles à la cinétose. Et c'est quand même pas mal de monde, oui, sur les gens qui ont essayé la VR, c'est quand même un petit paquet. Hein.
Oui,
il
n'y
a,
oui,
pas de stats, mais il me semble que c'était quand même pas mal. Hein.
Oui, oui, j'ai pas non plus les chiffres, mais oui, il y en a beaucoup. Bah, en plus, dites-vous qu'il y a des gens comme moi qui ont du motion sickness juste avec les jeux à la vue en première personne.
Mmh. Donc,
ouais. Mais ma compagne est pareil, et du coup, ouais, je comprends aussi. Ouais. Hein.
Donc voilà, c'est très cool, effectivement, qu'il y ait de la diversité de propositions dans les jeux en VR, ouais.
Super studio au passage en plus.
Mais oui, parce qu'on les connaît.
Mais oui.
Parce qu'ils avaient développé aussi d'autres jeux hors VR.
Non, non, là c'est leur premier jeu, mais c'est juste qu'on, okay, on connaît les membres du studio. Parce que c'est pareil, c'est des personnes qui viennent souvent au meet-up. Voilà. Le fameux réseau des game devs lyonnais.
Tu sais, quand elle n'est pas là, le premier jeudi de chaque mois.
Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, par rapport à le fait que t'aies pas été là la semaine dernière, écoute pas les deux débuts d'émission, s'il te plaît.
Oh putain.
Voilà.
J'ai pas eu le temps de l'écouter cette
quel
semaine.
Quel dommage. Ah là là.
Mais tu le connais, il s'est vengé de tes déclarations de quand il était pas là.
Ah là là. Voilà. Okay.
Donc cette émission va très bien. Les gens s'entendent très bien. Ça se passe très très bien. On va enchaîner.
Bonsoir Marianne.
Oh, bonsoir.
Ça va?
Et toi?
Ça va très bien. Quel est ton rôle au sein du studio, Yolaine?
Alors, déjà, juste pour préciser, oui, Big Badger Street, il, oui, a d'abord été réalisé dans un cadre universitaire.
D'accord.
Donc, du coup, j'étais avec mes camarades, d'autres étudiants, pour la démo, notamment, qu'on a réalisée ensemble. Donc une super équipe, hein, au passage, inclusive et tout, donc c'était vraiment un plaisir de travailler avec toutes ces personnes. Et ensuite, cette démo, vu que c'était mon idée à la base, j'avais vraiment envie de la pousser. Donc en fait, je l'ai, pendant presque un an en fait, j'ai retravaillé avec une autre équipe en fait, pour lui donner sa patte semi-professionnelle, et surtout pour ajouter un niveau qu'on n'avait pas eu le temps de faire, qui est le niveau du métro.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Il est marquant, celui,
voilà,
du métro.
C'est ça.
Oui.
Et bon, ça avait été notre regret en fait à l'époque, et du coup c'était important pour moi de le rajouter parce qu'il fait sens en fait dans l'histoire qu'on raconte. Et voilà, c'est un moment qui est assez glaçant, et ça permet de bien comprendre en fait ce qu'on peut ressentir dans ce type de lieu, qui est quand même propice au harcèlement, du coup.
Et donc, c'est au moment de ce retravail qu'a été créé le studio, c'est ça?
Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'était déjà mon idée, en fait, dans ma reprise d'études. Alors, il faut savoir que j'avais commencé à être narrative designer avant de reprendre mes études. Et c'est en travaillant en fait sur la narration pour le jeu vidéo, je me suis dit que ça serait bien quand même que j'ai un peu plus de bagages, que je complète ma panoplie de compétences en fait en reprenant l'université à Gamagora. Donc c'est pendant un an, on est formé au level design, au game design, aux fondamentaux finalement nécessaires, et pour ensuite effectivement créer un studio de jeux vidéo.
Et en remontant le fil auparavant, qu'est-ce, ouais, qui t'avait mené justement à ces études, à mener en fait à vouloir faire du jeu vidéo, tout simplement?
Oh mon Dieu, alors ça c'est un très bon fil. Là tu tires un très, très... Là c'est la pelote, hein, je veux dire. Non, en fait il faut savoir que je pense très jeune, c'est-à-dire je n'arrive pas à me souvenir du début, mais je voulais raconter des histoires. Je crois que ça c'est vraiment... Et alors moi, quand à l'époque où j'avais je sais pas 3-4 ans, quand ces idées farfelues me sont venues en tête, le jeu vidéo ça existait, enfin pas vraiment encore en fait.
C'était pas dans ton univers en tout cas.
Non, et puis bon, je pense que c'était pas très démocratisé encore à ce moment-là. Du coup, parce que je suis très vieille en fait.
Voilà. Oh, quand même.
Ouais, si. Et du coup, c'était l'écriture en fait. Je regardais avec mes parents les émissions littéraires et je trouvais que ces gens étaient fabuleux. Enfin, je savais pas encore écrire moi. Et ces personnes avaient l'air de raconter des histoires incroyables et de créer des univers. Et j'ai toujours eu envie de faire ça en fait. Et tout ce que j'ai fait dans mon existence en fait, c'est ça, c'est pour raconter des histoires. Et le jeu vidéo est assez génial parce que c'est un média qui permet de rassembler finalement tout ce que j'ai appris tout au long de ma vie. On a de la narration, on a de l'art, on a la dimension ludique qui est importante, cette dimension d'interaction aussi. Y a vraiment tout ce qu'il faut pour que je m'éclate en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Ça centralise tout ce qui me passionne, tout ce que j'aime faire. Et voilà, alors après je suis joueuse depuis longtemps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeu vidéo a commencé à devenir, à se démocratiser, notamment le jeu vidéo narratif, forcément ça m'a attirée, mais ça me paraissait très lointain en fait. Le jeu vidéo, ça se passait quelque part au Japon, aux États-Unis, c'était des gens très 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 loin qui faisaient des choses incroyables, on ne sait pas trop comment, il y avait un peu cette magie-là. Et finalement, comment j'y suis arrivée, c'est un long parcours. Hein. C'est-à-dire que je pense que le déclic, vraiment, où je me suis dit c'est possible, c'est quand j'ai commencé à enseigner en école de jeux vidéo, tout simplement, en étant professeur de culture. Et je me suis rendu compte que j'avais des étudiants qui étudiaient ça, qui faisaient des jeux vidéo, qui me les faisaient tester, qui étaient très très fiers de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Et ça me tenait trop envie, quoi. Et voilà, du coup, j'ai décidé de faire ça.
Et tu parlais tout à l'heure que ça semblait loin parce que c'était aux États-Unis ou au Japon. Est-ce que tu as eu des exemples français qui t'ont parlé dans ton parcours ?
Alors à cette époque-là, pas vraiment en fait, parce que c'était des productions françaises. Mmh. Je pense qu'il n'y en avait pas des masses. Parce que là, je te parle vraiment des années 90-2000.
Il y en avait quelques-unes, mais ouais. C'était confidentiel.
J'aurais pensé, moi, à Cryo, par exemple.
Ouais, les jeux Cryo, les jeux type Versailles.
Ah, si, oui, effectivement, mais c'était pas forcément les jeux qui m'intéressaient le plus.
Okay. D'accord, c'est ça que je me demandais, en fait, quand tu parlais, en fait, de jeux vidéo narratif. Ouais. Je sais pas si tu avais un nom, un jeu qui t'avait amené vers ce genre, en fait.
Ah la vache, là ça me replonge loin. Alors il y avait les jeux, alors il y avait mon frère qui avait des jeux lui, parce que après il y avait aussi en plus, parce que je parle d'une ancienne époque, mais je suis une femme, et c'est vrai que les jeux étaient plutôt connotés garçons. Donc mon frère avait des jeux, des consoles, etc. Donc j'ai commencé à jouer avec lui en fait. Donc c'était des Sony, des Street of Rage, des choses comme ça. Okay. Mais là où je suis vraiment rentrée dedans, je pense que c'est là où je me suis dit, ah ouais, les jeux vidéo, vraiment, ça raconte des choses beaucoup plus profondes que juste on se tape dessus. Je crois que la claque, ça a été le Final Fantasy VII. Mm-hmm. Donc c'était sur PS. Et là, je me suis dit, mais vraiment, ça aborde des sujets. On est dans de la fiction, on est dans de l'histoire, on est dans du fantastique. Et ça aborde des sujets tels que l'écologie, le trauma de guerre. Enfin, voilà, ça aborde des sujets de fond. Et là, je me suis dit, le jeu vidéo, c'est vraiment un média qui m'intéresse. Et voilà. Après, j'ai été beaucoup sur des MMORPG aussi. Mmh. Donc, je pense que le plus ancien, c'était Dark Age of Camelot. Hein.
Ah oui.
Le fameux qui était quand même assez technique en termes de gameplay, je trouve, et sur lequel je me suis beaucoup amusée aussi. Et puis voilà. Mais ouais, c'est pareil, ça a été très très long, puisque comme ça me semblait lointain, où j'étais plutôt sur des grosses productions au départ, mm-hmm. je pense. Et puis petit à petit, bah forcément, plus je suis rentrée dans le secteur, plus on voit les pépites. Mais c'est vrai que le milieu indé, j'y suis rentrée assez tardivement, en vrai.
D'accord.
Parce que c'est vrai que pour le public, ça manque de visibilité. Et le public ne se rend pas vraiment compte de la richesse qu'on peut trouver quand on commence à creuser un petit peu derrière les grosses productions. C'est pas forcément intuitif quand on est extérieur, enfin quand on est joueur, mais qu'on n'est pas dans le milieu de trouver ces pépites. Et puis c'est pareil, il y a énormément, enfin quand on va sur Steam ou d'autres plateformes, on a une telle diversité de choix de jeux, etc., que tout se noie en fait là-dedans. Et c'est vrai que le jeu indé apporte une justement, apporte encore quelque chose, c'est-à-dire qu'on est dans de la créativité, on est dans de l'innovation, on est dans de la recherche, jusqu'où on peut pousser un gameplay, jusqu'où on peut pousser une histoire, qu'est-ce qu'on peut faire avec peu de moyens aussi, ça rend très très créatif.
Oui, bah c'est ça, parce que du coup les grosses productions sont plutôt du genre à recycler des choses qui fonctionnent parce qu'ils veulent pas prendre de risques, tandis que l'indé, c'est au contraire comment réussir à se démarquer en allant en faisant des choses qu'on voit pas ailleurs.
Oui. Ouais. Mais il y a une appétence pour l'indé en ce moment, et je le remarque, alors par rapport au public, mais je le remarque aussi parce qu'on a quand même des gros studios qui font des petits bébés indés, enfin indés entre guillemets, parce que c'est de l'indé avec des gros moyens, des triple I ou autres. Et justement parce qu'ils veulent aussi surfer sur cette vague, sur cet attrait en fait. C'est vrai que je pense qu'il y a un peu une lassitude des recettes toutes faites quand même. Et les joueurs commencent à chercher à voir ce qui se fait ailleurs en fait.
Oui, clairement. C'est-à-dire que si pendant des années on a eu justement les fameux héros stéréotypés qui se ressemblaient tous, c'est pas tant parce qu'on voulait créer un nouveau héros, c'est parce qu'en fait on raisonnait en disant... en demandant aux gens en fait c'est quoi la différence entre ce que vous aimez pas et ce que vous fait fuir, et ça, ce héros classique très fade, ténébreux, musclé, et qui fait des blagues toutes les 5 minutes, et ça vous dérange pas en fait, et ça passionne pas, mais ça dérange pas. Donc, et que dès que tu disais, en tout cas, je me souviens de l'époque, notamment de Mirror's Edge ou d'autres jeux comme ça, où tu mettais une héroïne féminine, une héroïne racisée, un héros racisé, ou un héros, ou en tout cas un protagoniste qui a une caractéristique où il y a une partie qui va dire, ah non, ça je peux pas. Et en fait, la réponse au niveau des chiffres était toujours je m'en vais. Et pourtant, c'est avec ce type de protagoniste qu'on a trouvé les plus grands succès côté des jeux indés, quoi.
Bah oui, en fait, je pense que le fameux parcours du héros, c'est ça, hein, le voyage du héros, le héros aux mille et un visages, c'est du vu et revu, quoi. Parce que il y a le jeu vidéo, mais il y a le cinéma, il y a la littérature, etc. Donc les gens ont déjà beaucoup de références, et je pense qu'effectivement ils attendent aussi d'autres choses.
Oui, bien sûr, mais comme dans n'importe quelle industrie culturelle, où il y a un moment donné il y a des poncifs, il y a des archétypes, il y a des choses qui reviennent souvent, et au bout d'un moment le public a juste envie d'autres choses et va se tourner vers des œuvres un peu plus alternatives ou indé, parce qu'il a envie de renouveau.
Oui, qu'ils vont savoir renouveler ces tropes, ces clichés, les reprendre à leur compte, justement revenir dessus. C'est toujours des choses intéressantes, ouais.
Et puis après, il y a le public aussi qui a changé, parce que mine de rien, quand je jouais à Dark Age of Camelot, je devais être une des rares femmes. Enfin, vraiment, je crois que j'en ai pas croisé à ce moment-là.
Oui.
Ou alors, elle se déclarait pas tant.
Non, mais c'est ça. C'est moi, quand je jouais au MMO à l'époque aussi, pareil, je me créais des personnages masculins et je disais pas que j'étais une meuf. Je jouais pas avec un micro, et dans le chat, je disais pas que j'étais une meuf. Oui, bien sûr.
Ouais, j'évitais les micros aussi. Après, je jouais des personnages féminins parce qu'il y a quand même des belles robes dans MMORPG. Mais il y a une petite coquetterie comme ça. Non, mais vraiment, ouais, c'était chaud. Mais après, sur Dark Age of Camelot, ça allait encore, parce qu'il n'y avait pas encore cette... la voix, on ne l'entendait pas, en fait. C'est venu après. C'est dans WoW, surtout, où là, c'est devenu... le harcèlement et tout, c'était chaud, quand même.
Ouais.
Et puis c'est loin d'être fini quand tu vois les chiffres, quand tu vois les études sur le sujet, c'est très très loin d'être fini. Quoi.
Mais en fait, quand ça fait la transition avec Big Badger Street, justement. Oui. C'est-à-dire que le harcèlement, il est partout, que ce soit IRL ou que ce soit de façon virtuelle. C'est là où on voit que, effectivement, quand on est une femme ou une minorité de genre, hein, aussi, c'est visible. Très vite, on est catalogué, c'est-à-dire que ça va être soit de la drague lourde, soit par défaut, on va être incompétente, en fait. Oui. Et c'est vrai que y a des jeux que je fais plus parce que c'est chiant. Dans les MMORPG, par exemple, j'y joue seule maintenant. Donc l'intérêt du MMORPG est très limité, mais parce que j'ai pas envie qu'on me saoule, j'ai pas envie de rencontrer des gens, j'ai pas envie qu'on entende que je suis une femme, j'ai pas envie d'être. Voilà quoi.
D'accord, donc plus des jeux à la Destiny où tu peux faire ton avancée relativement seul, quoi.
Moi, même pas, non, des vrais MMO. Voilà, et donc je ne profite absolument pas des.
Ça, c'est envoyé pour les gens de Destiny. C'est pas un vrai MMO.
Ah non, c'est pas ça que je.
C'est retenu.
Non, mais je.
On approuve, hein, pas de problème.
Ouais. Non, mais j'étais dans le chute de ma pensée. En fait, oui, non, c'est plutôt la dimension, tu sais, de faire des gros raids, des choses comme ça. Quand t'es seul, tu peux pas, parce que t'oses pas te taper l'incruste, parce que forcément, tu vas devoir parler, on va entendre que t'es une fille, et donc dès que tu vas faire un pas de travers, ça va être un drame et voilà et du coup non, j'y vais juste pour l'ambiance parce que j'aime bien être dans ce genre d'univers parce qu'on est relativement libre en fait de faire tout un tas de choses mais pas du tout pour la dimension sociale ce qui est un peu dommage du coup parce que donc ça c'est bon j'ai eu ma période c'est vrai que ça m'a un petit peu calmée hein. Je crois que j'y suis restée assez longtemps et j'en suis ressortie quand même enfin c'était un petit peu un peu compliqué et voilà mais oui j'ai toujours des jeux comme ça des MMO comme Guild Wars j'y reviens régulièrement par exemple mais voilà c'est seul
du coup pour revenir à Big Badger Street et donc à son thème central donc le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles du coup, effectivement, on voit qu'il y a des avancées dans la société aujourd'hui. Ça évolue, mais ça évolue pas très vite. Comme tu le disais, c'est encore très très présent. Le harcèlement est encore très présent dans certaines communautés de joueurs, de joueuses. Il y a des endroits où ça range, mais d'autres pas du tout. Et du coup, donc, quand t'as créé Big Badger Street, c'était quoi l'objectif avec ce jeu est-ce que, du coup, c'est marqué dans la description du jeu que c'est un objet de sensibilisation. Donc, parle-nous un petit peu de ça et de la démarche.
En fait, moi, le harcèlement sexiste et sexuel, du coup, je l'ai vécu dans la rue, parce que j'étais parisienne quand j'étais plus jeune. Je l'ai vécu, au travail, oui, un petit peu quand même, dans les jeux. Etc. Et en fait, j'avais l'impression que, effectivement, les mentalités avaient changé. Et le déclic est survenu à un moment donné. On avait été boire un verre avec d'anciennes étudiantes, des anciennes étudiantes à moi. Et en fait, le sujet a été abordé et ça m'a. Je sais pas comment dire, tant que c'était moi qui le subissais, en plus à une époque où les préjugés sexistes étaient quand même très courants, quoi. Je le vivais mal, mais je prenais sur moi, en fait. Mais le fait que ces jeunes femmes me disent qu'elles continuaient à subir ça, et que moi aussi je continue à le subir aujourd'hui, en fait, je sais pas, ça a créé un déclic où je me suis dit, mais c'est quand même fou, c'est pas normal, on n'arrête pas de dire que les mentalités changent, on n'arrête pas de râler après les féministes en disant c'est des hystériques, arrête pas de gueuler pour tout et n'importe quoi. Mais en réalité, finalement, les problèmes restent. Et même moi, je me suis rendu compte que parfois, j'avais des réactions complètement de paranoïa qui restent. Par exemple, dans le métro, je me suis rendu compte que j'avais cet automatisme, par exemple, de sortir au moment où les portes se ferment derrière moi. Parce que j'étais tellement suivie que j'ai gardé ce réflexe-là. Ou, c'est une anecdote que je raconte assez souvent, mais parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a un ancien étudiant à moi qui m'a interpellée dans le métro, je ne l'ai pas entendu. Du coup, il a juste mis sa main sur mon épaule, je me suis retournée, mais je pense qu'il a eu peur, quoi.
Oui, le nombre de fois où je croise des potes dans la rue ou dans les transports et que, en plus, on a l'habitude de mettre les écouteurs pour ne pas entendre les réflexions qu'on pourrait se prendre. Donc, on écoute de la musique et là, on se fait interpeller et direct, la réaction, c'est « Qu'est-ce que c'est ? Ah, salut, pardon, excuse-moi. »
Exactement. C'est trop ça. Ça nous rend un peu parano. On n'est jamais sereine, en fait, quand on est dans un espace, que cet espace soit réel ou virtuel, finalement, on n'est jamais complètement sereine. Et je sais pas, ça m'a révoltée. Et du coup, quand j'ai repris mes études, j'avais ce sujet en tête. Et c'est vrai que, alors là où par contre c'est très optimisme, hein, pour les nouvelles générations, c'est que quand je l'ai présenté, j'étais quand même face à une assemblée qui était essentiellement composée de jeunes hommes, donc des personnes qui auraient pu être mes fils, hein, clairement, et des hommes surtout. Et finalement, c'est très bien passé. Alors j'ai eu quelques réflexions, hein, sexistes bien évidemment, mais c'était vraiment très anecdotique en fait, par rapport à l'engouement que le jeu a pu susciter en fait. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que on a quand même des hommes qui essayent de faire des choses.
Oui, et puis qui acceptent de se remettre en question s'il faut, et qui acceptent que certes la société est machiste. Et,
c'est ça. Ouais. Bon, après, mon équipe était quand même une équipe inclusive, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une bonne proportion de femmes et de minorités de genre, puisque bah, forcément, on était tous confrontés en fait, à cette problématique. Mais néanmoins, effectivement, le projet a été très, très soutenu, et ça, je trouve que c'est une très belle chose. Mmh. Et moi, j'ai passé une année formidable, justement, à travailler sur cette thématique, parce que ça a vraiment créé des prises de conscience, de la réflexion, et puis vraiment une de l'émulation, de l'engouement. Enfin, c'était que du positif, en fait.
En fait, je pense que quand on parle de la fameuse évolution des mentalités, alors vous, chers auditeurs, vous ne voyez pas les gigantesques guillemets que j'ai mis.
Moi, je les vois, je confirme.
Voilà. C'est pas tant un véritable changement de mentalité, mais plus une plus grande proportion de personnes qui soit prennent conscience du problème, soit sont prêts à accepter qu'il y ait un problème. Il n'y a pas un vrai changement, parce que c'est pas auprès d'assez de monde pour qu'il y ait un effet qui soit visible, entre guillemets. Mais par contre, justement, ce dont tu parles, c'est que le discours se heurte à des murs, mais qui sont de moins en moins grands.
Oui, voilà. Il y a un truc, en fait, c'est que tu parles effectivement de prendre conscience d'un problème. Et c'est quelque chose qui, finalement, moi j'ai grandi dans les années 80-90, c'était pas un problème.
Ça n'existait pas, hein, clairement.
Ouais. C'était pas un sujet, c'était pas une discussion, c'était pas les comportements qui pouvaient effectivement être, enfin, qui sont des comportements de harcèlement, d'oppression et tout ce que tu veux, c'était pas un sujet. Aujourd'hui, tout doucement, ça peut effectivement commencer à en devenir un. Et du coup, vu que ça commence à devenir un sujet, il peut y avoir, comme tu dis, des personnes qui commencent à prendre conscience que ça puisse être un problème.
Mais tu as complètement raison, parce que je sais que moi, quand j'étais donc très très jeune, adolescente, à Paris, je voyais des fois des femmes qui réagissaient un peu violemment, un peu vivement, quand elles se faisaient agresser. Et en fait, ça gênait les gens, en fait. Limite, j'en ai vu une qui s'est fait mettre dehors de la rame de métro, parce qu'elle avait osé hurler qu'un gars lui mettait la main aux fesses, en fait. Et elle passait vraiment pour une hystérique. Ce qui fait que moi, en tant que jeune fille, la première fois que je me suis fait agresser sexuellement, je ne savais pas comment réagir, parce que j'avais peur que les gens s'en prennent à moi. Donc c'était soit il y a un agresseur tout seul qui s'en prend à moi, soit c'est tous les gens du bus dans lequel je suis, en fait.
Ouais, qui te reprochent d'avoir réagi.
Ouais, et qui me mettent dehors ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça rend complètement... ça fait péter des câbles, quoi. Et c'était pas c'est vrai que c'était pas un problème. Hein. C'est-à-dire que je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les gens commencent à réagir, en fait. Mais pour ça, ils ont besoin d'outils, parce que c'est pas forcément évident, quand on voit quelqu'un se faire harceler, se faire agresser, de savoir comment on peut réagir, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations? Mais en tout cas, ça vient, et c'était justement l'objectif aussi de ce jeu. C'est pas tellement de changer le comportement de certains hommes, puisque je ne pense pas qu'ils vont jouer à ce jeu. C'est plutôt que les gens réfléchissent et que ça casse l'effet du témoin. L'effet du témoin, c'est cet état psychologique dans lequel on est quand on est face à des situations comme ça, où on voit des personnes se faire agresser, et où on reste figé. Pour plein de raisons. Les raisons sont multiples. C'est soit parce qu'on ne sait pas comment réagir, du coup, ben, on ne fait rien. Il y a un effet de groupe. Si on voit que les autres ne réagissent pas, on se dit, bon, ben, peut-être que ce n'est pas le moment de réagir. Il y a des effets de peur. On se dit, oh là là, mais je risque gros et tout ça, je vaut mieux que je fasse comme si je ne savais pas ce qui se passe.
Ouais, c'est moi qui vais devenir la cible.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de raisons qui ont été mises en fait en lumière il y a, je pense, dans les années 60 de mémoire, suite à un crime horrible, qui s'est passé dans un immeuble où tous les gens ont entendu en fait une jeune femme crier, appeler à l'aide, et où personne n'est intervenu. Il y avait une trentaine de personnes dans cet immeuble. Et chaque personne avait ses propres raisons en fait de ne pas agir. Mais c'est un problème parce que ne serait-ce si une seule personne, si une seule personne avait ne serait-ce qu'appelé la police, la jeune fille aurait été sauvée puisque elle est décédée. Et du coup, cet événement a fait prendre conscience. Enfin, les gens se sont interrogés qu'est-ce qui s'est passé pour qu'autant de monde ne fasse rien alors qu'il y avait un seul agresseur. Il aurait pu être tellement mobilisé, facilement en fait. Et face à ces problématiques des violences en général, je pense qu'il y a cet effet de stupeur, cet effet du témoin, cet effet de ne pas savoir comment réagir. Et puis parfois, on est dans des mondes, on est aussi dans un monde où l'empathie, la générosité, la bienveillance sont un petit peu moquées. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est pas, on est quand même... amené à être assez dur face à certaines situations et à se dire c'est le problème.
Vrai que globalement, on est dans une société assez individualiste, ouais. et donc.
Et qui va de plus en plus valoriser la force, ce genre de choses.
Et oui, il y a plein de raisons qui font que les gens ne réagissent pas. Et moi, c'est ça là-dessus que je veux les secouer un petit peu pour qu'ils se disent ah oui, il y a un problème. Parce que pour voir un problème, il faut le conscientiser en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans les années 90-2000, quand moi je me faisais harceler, même moi, j'avais pas conscience du problème, j'en souffrais. Parce que ça rend parano, et puis j'avais pas les mots en fait pour mettre une forme en fait autour de cette sensation de malaise que je pouvais ressentir, par exemple dans la rue ou quand je me faisais aborder par un homme, parce que souvent c'est ce que je dis, la première agression je devais avoir 14 ans, donc en tant que jeune fille à Paris dans des quartiers, d'ailleurs ça, c'est même pas une question de quartier, c'était partout.
De partager mon expérience personnelle de campagnarde. Ma première agression, j'étais pas plus vieille, je sais pas, j'avais entre 12 et 14 ans, je sais plus exactement, et j'étais à Argenton-sur-Creuse.
En plus pareil, première agression, c'était un homme de 40 ans qui avait l'air très bourgeois, vraiment, c'est pas du tout les clichés qu'on a. C'est pour ça d'ailleurs que dans Big Badger Street, ils ont des têtes de blaireaux. Je ne voulais pas qu'il puisse y avoir une récupération possible en disant c'est certains types de populations qui posent problème, etc. Parce que c'est un discours que malheureusement on peut entendre, et ce discours est faux. Et en tant que femme, je le confirme, et je pense que toi aussi, ça ne dépend pas de l'ethnie, ça ne dépend pas de l'origine, ça ne dépend pas de la classe sociale, ça ne dépend pas de tout un tas de facteurs. C'est des hommes de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les origines possibles. Il n'y a pas de...
Oui, parce qu'en plus, dans Big Badger Street, justement, il y a le harcèlement de rue, mais il y a aussi le harcèlement au travail.
Oui.
Le harcèlement par ton patron se permet de te rabaisser.
Dès les premiers messages que tu reçois.
Oui, parce que c'est vrai que, peut-être qu'on pourrait un peu rappeler en fait le fonctionnement du jeu, ce que tu as vu la pitcher au début. Si ça te va, je vais essayer un peu de raconter mon expérience.
Mais
en fait,
c'est parce que c'est intéressant justement de voir comment toi tu l'as vécu.
Je dois aller au travail. J'ai déjà, on me montre mon téléphone, à quoi il sert, et déjà je dois choisir ma tenue. Je trouvais très intelligent l'influence de la tenue sur le reste du jeu. Spoiler, je spoile pas. Mais
non, si on peut spoiler, il y a aucune incidence.
Mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça justement très 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 intéressant. En faisant les replays, que je m'en suis aperçu.
C'est vrai que du coup, en tant que femme, moi je le sais que, que ça n'a pas d'incidence, mais effectivement quand on est un homme on se pose la question, genre, oui, parce c'est que vrai. c'est ce qu'on entend que c'est parce que ça vient de la manière dont on s'habille, on n'avait qu'à pas être aguicheuse ou je ne sais quoi. Et dans les faits, oui, pareil, je confirme, je me suis fait harceler de la même manière, que je sois en jogging pas coiffé, que apprêté, et ça ne change strictement rien.
Non, en fait je pense que les gens imaginent que c'est la drague maladroite. Absolument pas, on est dans une relation de pouvoir, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent asseoir leur pouvoir, et donc finalement, même limite, des fois, plus on paraît fatigué, faible, etc., plus la personne peut avoir la sensation d'avoir une certaine mainmise. En fait, du coup, ça n'a aucun rapport avec la tenue. On peut être hyper sexy, on va se faire draguer forcément parce que c'est sexy. On peut être en survêt, voilà, et du coup... je sais pas. En fait, c'est très difficile pour moi de savoir par contre ce qui se passe dans la tête des agresseurs.
Ça serait intéressant, mais... Ouais.
Bon. Donc, en tout cas, pour le coup, c'est pas l'expérience que le jeu m'a laissé, c'est-à-dire de savoir ce qui se passait dans la tête de l'agresseur.
Non, pas du tout.
C'est plutôt...
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi?
Alors, moi, c'était plutôt... En gros, c'est... foutez-moi la paix, et on était au bout de, allez, 3-4 minutes de jeu à peu près.
Et oui, le jeu est court, hein.
Et parce que, en fait, le truc, alors, clairement, j'ai pas pu passer le métro. Voilà.
Ah.
Voilà. J'ai pas pu passer le métro, en fait, alors c'était peut-être parce que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire.
Ouais,
mais voilà.
Du coup, reprends ton explication, ouais. T'as coupé. Donc au début, on choisit sa tenue.
On choisit sa tenue, et en gros, il faut qu'on soit à l'heure à un certain truc, un rendez-vous du boulot, on va dans la rue. Donc on marche dans la rue, et en fait, même si on marche dans la rue, son attention est aimantée automatiquement par un type qui te parle. Et en gros, le premier, c'est, je crois que le premier, il m'a fait un compliment. Merci. Donne-moi ton 06. Non. Et après, le reste est censuré. Voilà. Bon. Donc ça, c'était 15 secondes avant sortant de chez moi. Et le truc, c'est que les autres, en fait, à chaque fois, en fait, on veut avancer. Et à chaque fois qu'on est... Au début, on se dit, c'est parce qu'on est proche des gens. Parce qu'en fait, on est sur le trottoir, il y a plein de gens qui... Il y a plein de gens qui viennent t'emmerder, quoi. Et c'est pas que... Parce que là, c'est le côté caricatural du 06, tout ça. Des fois, c'est des gens qui demandent un renseignement, et ça finit par un truc ultra intéressé. Des fois, il y a des gens qui te parlent de tes vêtements. Des fois, il y a des gens il y a des gens, en fait, qui directement, c'est de l'agression pure, c'est-à-dire que ils sont là juste parce que, genre, t'as pas le droit, en fait, d'être là et de te promener librement comme ça aussi. Et le truc, c'est que, en fait, donc au bout du quatrième ou cinquième fois où, en fait, t'as pas pu faire 3 mètres sans qu'on te fait sans qu'on t'emmerde, quoi, en fait, j'ai commencé à marcher au milieu de la rue.
Oui.
À marcher au milieu de la rue, parce que je me dis, c'est loin des gens. Oui. Et je me faisais quand même emmerder, parce que les gens, ils me sifflent, parce que forcément, t'es au milieu, qu'est-ce que tu fous là?
Ils venaient te chercher.
Oui, mais non,
j'ai fait pareil.
Ah ouais, c'est, voilà.
Oui, oui, au début, je me suis dit, mais attends, il y a des voitures et tout, comment ça va se passer? Mais j'allais quand même au milieu de la route, mais.
Ah ouais.
Ça ne résout rien. Hein.
C'est ça. Et le truc, alors. C'est peut-être que je m'en souviens moins parce que je l'ai fait pendant l'Indie Game Lyon qui a quelques temps. Je crois que t'as une jauge de stress.
Oui,
c'est ça.
Tout à fait.
Et déjà que t'es pas bien, et puis il y a ton patron qui t'appelle, qui te fout la pression à base de vas-y, mange ton cul.
Et puis, oublie pas, j'espère que tu t'es bien préparé. Parce que c'est important pour quoi tu viens.
C'est ça. Et puis dans ces termes-là, rien de professionnel. Hein. C'est vraiment voilà.
C'est du sexisme ordinaire. Ouais.
C'est ça. Et donc en gros, il y a eu la scène du métro. Et en fait, dans le métro, j'ai compris ce qui se passait, mais je crois que j'ai pas compris ce que je devais faire. Et c'est pour ça que j'ai eu un game over à ce moment-là.
Ouais.
C'était quoi? C'était la jauge de stress, du coup?
La jauge de stress qui s'est... Ouais. Enfin, et puis, en fait, j'étais coincé et j'essayais de bouger et je n'arrivais pas à bouger.
Quand il fallait, en fait, bouger de façon... En fait,
voilà, c'est ça.
Tu dois bouger la souris.
J'ai pas compris ce que je devais faire.
Tu dois faire des grands gestes avec la souris pour bouger de très, très peu.
Ouais, voilà.
Et ben, en fait, si tu veux, c'est pour que tu aies... Vu que c'est un frotteur,
okay.
C'est vraiment pour que tu aies cette sensation d'oppression de ne pas savoir comment tu dois réagir.
Okay.
En fait, tout ce que tu racontes, c'est des émotions qu'on ressent. Je t'explique, par exemple, quand tu dis que je marchais au milieu de la route, etc., pour éviter les gens. En fait, c'est intéressant parce que c'est ce que nous, on fait. Alors, on marche pas au milieu de la route, mais on va éviter certains horaires, on va éviter certains quartiers, certaines tenues vestimentaires, etc., etc., pour justement ne pas être confronté au harcèlement, en fait. Donc, il y a plein de situations qu'on évite ou pour lesquelles on se prépare un petit peu. Et justement, le fait que les personnes adoptent ces stratégies d'évitement, c'est exactement ce qu'on fait. On a des stratégies d'évitement pour éviter au maximum de se retrouver dans ces situations périlleuses. Et par rapport aux frotteurs, ce que tu as ressenti, c'est exactement ce qu'on peut ressentir dans ces situations. C'est des situations qui sont extrêmement gênantes puisque souvent c'est dans des heures de pointe, etc., donc tout le monde se touche, donc déjà c'est pas forcément agréable, mais tout d'un coup on sent qu'il se passe quelque chose. Au début on se dit on est parano, etc., on essaye de relativiser, on essaye de se dire que c'est rien, et puis finalement bah, y a bien des choses qui se passent, et du coup on sait jamais comment vraiment réagir, surtout qu'en plus on est acculé dans ces situations, c'est qu'il y a beaucoup de monde, on est serré, on peut pas se retourner, on peut pas se mouvoir comme on veut, etc. Du coup c'est des situations qui sont extrêmement gênantes, qui sont extrêmement stressantes, et le fait que tu paniques à ce moment-là, finalement, en sachant pas comment tu dois réagir, ce que tu dois faire, si tu dois tourner la souris, machin, t'as une petite indication qui te dit quand même que tu dois bouger la souris.
J'ai peut-être pas fait attention à ce moment-là. C'est peut-être aussi dû, entre guillemets, aux conditions un peu salon, où c'est des fois t'es moins attentif à certains trucs.
Bah oui, c'est vrai, puisque comme tu l'as testé en plein salon. Mais si tu veux, c'est quand même intéressant parce que c'est exactement ça. Enfin, ce que t'as ressenti à ce moment-là, c'est ce moment où tu te sens complètement perdu, où tu sais pas ce que tu dois faire. C'est exactement la sensation, le gameplay que je voulais, en fait. Tu vois.
Et du coup, ça me fait une transition parfaite. Donc, pour l'anecdote, je crois que je te l'ai jamais raconté, Morgane. Mais donc, bah, on vient de le dire, on avait choisi le jeu, on avait sélectionné le jeu pour être exposé à Indie Game Lyon. Mais en fait, ton jeu avait fait débat dans la team de programmation. Notamment, justement, parce que quand on joue à Big Badger Street, on passe un mauvais moment, en fait. Justement, on se fait harceler, c'est difficile, on ressent des émotions négatives, etc., etc. Et ça avait fait débat entre nous parce que ça nous a fait nous poser des questions sur qu'est-ce qu'un jeu vidéo, est-ce qu'il doit être fun ou pas. En plus, la notion de fun est totalement subjective de toute façon, mais voilà, ça nous a fait nous poser de nombreuses questions là-dessus. Bon, du coup, on était un certain nombre. Alors, quand je vous dis un certain nombre, on est 5-6 à choisir les jeux, hein. Du coup, on était 3-4 à avoir dit, bah non, on va le prendre parce que, ne serait-ce que justement, c'est une proposition différente. On a envie de montrer la diversité de ce que peut être le jeu vidéo, et c'est aussi un objet de sensibilisation, comme on l'a dit. Donc c'était intéressant. Mais voilà, ça nous a fait poser justement ce genre de questions.
Ça m'étonne pas du tout, parce qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment vie ma vie. Il y avait sinon le choix de faire un serious game, il en existe déjà, hein, voilà. Mais le problème du serious game, selon moi, c'est que je pense que les gens qui ne réagissent pas, qui sont du coup ces témoins passifs, ou les hommes qui le font de façon maladroite ou dans des conditions de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais je sais plus, c'était par rapport à
au fait qu'on vit des sensations désagréables et
oui
que,
voilà ouais. C'est ça.
Et par rapport au service game, la différence avec un service game.
Voilà, c'est qu'on sait les bonnes réponses, en fait. On sait qu'il faut pas parler aux gens, aux inconnus. On sait qu'on donne pas son avis comme ça aux gens de façon désagréable. On sait qu'on n'insulte pas les gens. Les gens, ils savent ce qui est bien ou pas bien de faire, tu vois. Mais du coup, dans le serious game, c'est assez facile de gagner, on va dire, parce qu'on sait tous les bonnes réponses. Et là, ce que je voulais, c'était vraiment que le ressenti soit au plus juste et que le gameplay et la narration soient en adéquation pour qu'on ait toutes les sensations que nous, en tant que femmes ou minorités de genre, on peut ressentir, en fait.
Il y a un épisode que j'ai oublié de raconter, parce qu'avant l'épisode du frotteur, il y a un épisode qui est peut-être, selon moi, le plus intéressant. On arrive dans le métro et on voit quelqu'un qui se fait emmerder.
Oui.
Oui.
Et justement, on vient de passer toutes les secondes du jeu à se faire emmerder. Et Je sais pas si c'est le jeu, mais en tout cas, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu auparavant dans le jeu me pousse à me dire, tu fermes ta gueule et tu vas te mettre dans un coin.
Ouais, là je pousse, en fait ouais, c'est ça que j'aime bien.
C'est en tout cas j'adore... j'ai l'impression que c'est oui. ça que le jeu me pousse à faire en tout cas.
Bah non en fait justement, okay. c'est la partie pédagogique elle est là.
Ok.
Donc c'est pas un serious game, mais il y a quand même cette petite pédagogie où toi tu subis, personne ne t'aide. Et au moment où tu vois quelqu'un subir, du coup comment toi tu vas réagir? Est-ce que tu vas faire comme les autres mm-hmm. ou est-ce que tu vas faire ce qu'on a envie, enfin ce que t'as envie que les autres fassent pour toi en fait.
Mm-hmm. Ah, c'est et... marrant, du coup toi ta réaction Xavier c'était justement de te dire c'est bon je me suis fait emmerder toute la journée donc là je vais me mettre dans un coin et je vais ignorer la situation, c'est
bah,
ça
en fait,
tu...
en fait la, en tout cas dans la situation du jeu ouais. c'était en fait, toute interaction est une mauvaise interaction.
Ouais.
Mmh. Tu vois, ouais. toute interaction est une mauvaise interaction, pas d'interaction.
Mais
en fait, c'était plutôt cette logique-là ouais, en fait okay. que je voyais.
Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que là, c'est ta vie, c'était le choix en fait que tu fais. Mais là, l'idée quand même, la petite notion pédagogique, c'est que justement quand tu vas aider cette femme qui se fait harceler. Les propositions que tu as, ça correspond aux 5D qui sont préconisées, donc aux 5 types d'actions que tu peux faire quand tu es témoin de ce type de situation. Du coup, toutes les réponses que tu as, en fait, c'est des bonnes réponses pour agir, pour faire en sorte que les harceleurs partent. Voilà. Donc,
les 5D, tu peux peut-être expliquer
Oui, alors, du coup, il faut que je m'en souvienne bien.
je ne me rappelle plus non plus.
Oui, voilà. Mais en gros, tu as documenté qui est, par exemple, tu peux prendre des photos, des films, alors tu ne les gardes pas pour toi.
Oui.
Ils doivent être détruits. Mais c'est pour servir de preuve à la victime, en fait. Tu peux lui transmettre si elle veut porter plainte, puisque aujourd'hui, je le rappelle quand même, le harcèlement sexuel, enfin sexiste et sexuel est interdit et. C'est un outrage sexiste, donc tu peux porter plainte pour ça. Ça peut être aussi, alors je me souviens plus des verbes pour les ouais. différents dés. Tu bah, les as sous les yeux.
On les a là.
Mais je vais les commenter à chaque fois si tu
donc
me les dis.
Donc il y a distraire.
Distraire, bah oui, en fait, c'est, par exemple, je sais pas, t'as un bar, t'as un gars qui drague, qui est bourré, qui drague lourdement une personne, bah tu peux le bousculer sans faire exprès, ou te mettre, t'interposer pour prendre ton verre, ou demander ton chemin au gars. Là, par exemple, t'as la possibilité de demander ton chemin au gars, et du coup, ça les perturbe, ils essayent de te répondre, et donc ils arrêtent d'embêter la jeune fille.
Est-ce que c'est aussi la distraction que d'interpeller la personne qui se fait agresser
oui.
en se mettant c'est entre ça. Les deux et du coup bah, l'agresseur se retrouve coupé
ça peut être ça, en fait c'est toutes les façons où tu vas t'interposer pour les oui. détourner en fait de leur acte malveillant, donc ça peut être aussi aller voir la jeune fille et lui dire ah mais en fait je te connais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et d'engager la conversation avec elle parce que du coup ils vont se retrouver isolés à part. Et voilà, donc ça peut être une solution. Alors cette solution, on la préconise à condition qu'il n'y ait pas de danger.
Oui, oui, oui.
Voilà, c'est vraiment si...
Ensuite, il y a déléguer,
alors ça c'est, tu vas voir, par exemple, tu es dans un bus, tu vas voir le conducteur, ou tu vas voir un agent de sécurité, ou dans les métros, tu peux appeler, tu peux tirer la sonnette d'alarme, tu peux même appeler la police si la situation est dangereuse. Donc déléguer, c'est le fait de demander à quelqu'un d'autre de t'aider. Après, il y a aussi cette solution de demander l'aide aux autres témoins.
Oui.
Alors, ça se fait pas comme ça parce que du coup, si les gens, tu peux te retrouver tout seul. Si les gens décident de ne pas agir, tu risques de te retrouver embêté. C'est bien d'interpeller une personne en fait, de pas interpeller tout le monde, mais de s'adresser oui. à des gens en particulier en fait pour les inciter à réagir.
Ensuite, tu avais dit documenter, donc tu en as déjà parlé.
Ouais.
Celui d'après, alors c'est retardé, mais c'est parce qu'en anglais c'est delay.
Ouais. Bah, je ne sais plus ce que c'est exactement, c'est... je les connaissais par cœur, hein, mais du coup là, j'avoue qu'à force d'être dans BBS à fond, psychologiquement, c'était un petit peu difficile, donc j'ai pris un petit peu de détachement.
Sinon, on passe au prochain, c'est pas grave, ouais. hein. C'est pas une interro surprise.
Non.
Pas de souci. Le dernier, c'était diriger.
Diriger, bah justement, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait comment dire, de... Alors si délai, je m'en souviens, c'est simplement le fait, bah, des fois tu peux pas agir comme tu veux, mais c'est quand même aussi le fait de quand même aller voir la victime à la fin et de lui proposer son témoignage, de proposer...
d'apporter voilà, un peu de soutien.
Okay. C'est, en fait, c'est, ouais, j'étais en train de voir le document en anglais, et c'est en fait, c'est potentiellement... retarder le trauma en fait de la personne en allant lui parler juste après.
Non,
en
fait, c'est tout à fait ça. C'est que effectivement, quand une personne subit quelque chose, des fois, ben, on est impuissant. Il n'y a pas forcément des solutions à chaque fois, mais c'est quand même d'apporter son soutien à la personne et voilà quoi. C'est déjà énorme si on peut le faire. Et du coup, le dernier, tu disais, c'est de diriger. Ben, il me semble que c'est possible que ce soit quand tu demandes à des gens de... Non, diriger, c'est ça. C'est, tu t'adresses aux agresseurs frontalement.
C'est ça. C'est ça.
Alors ça, par contre, c'est pareil. Faut
oui,
être
ça peut
sûr
être risqué,
de...
Ouais, voilà. Ça dépend des situations.
Ça dépend des situations. Mais oui, là, tu vas carrément dire, voir le gars et lui dire, non mais t'arrêtes maintenant tes conneries, tu dégages, etc. Ouais. Voilà. Donc c'est plein de solutions, donc on peut soit se mettre en retrait, appeler des secours ou attendre que ça se termine et aider la victime. De toute façon, dans tous les cas, l'idéal c'est quand même d'aider la victime, hein, quoi qu'il arrive. Ou alors effectivement d'agir de façon un peu plus frontale ou en rusant. Voilà. Mais il y a des solutions. Alors, il faut évaluer le danger avant, hein, je le répète. Mais il y a quand même des solutions comme ça pour distraire les agresseurs. Après, bon, généralement, s'ils voient qu'ils sont tous. Enfin, si tout le monde est contre eux, ils vont pas continuer. Je pense que cette histoire de harcèlement, c'est aussi parce que personne ne dit rien. Donc, les hommes. Alors, je dis les hommes parce que c'est quand même, on va dire, je crois que la police.
La majorité.
Ouais, voilà, on est sur du 98 ou du 99%. Donc, en tout cas, les hommes qui pratiquent ça, si on leur dit rien, ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Et c'est là-dessus où, pour moi, l'effet du témoin est un levier important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens vont commencer à réagir, et là, je vois que les gens réagissent. Hein, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps, dans le métro, il y a un gars bourré qui allait voir une fille. Les gens ont tous très bien réagi. Déjà, elle savait comment réagir. Ses copines savaient comment réagir. Et tous les gens étaient aux aguets autour, hein, prêts à... Ouais,
j'ai vu ça dans un bus il n'y a pas très longtemps, ouais. En fait, où il y avait une personne qui parlait directement... à une jeune femme, et le truc c'est que moi j'étais plus loin et en fait je voyais au moins trois personnes qui fixaient le type en mode
ouais.
Enfin en gros
ouais, fais gaffe, on est là,
et en gros, et c'est là, en gros c'est là où je me suis dit en fait j'ai pas besoin de m'en occuper parce que en fait j'avais mes écouteurs, je savais pas exactement ce qu'ils disaient ou quoi que ce soit. Je disais, s'il y a vraiment un souci, je pense que ce sera
ce sera
géré quoi.
Mais c'est important, et là il y a un progrès, parce que justement quand on disait tout à l'heure que avant c'était les victimes en fait, les personnes qui se retrouvaient victimes, qui limite étaient gênantes, là au moins il y a une éducation, une sensibilisation qui
donc
fait
c'est
que
ça. C'est ça, je rajoute une couche là-dessus, c'est que oui, on constate des progrès. C'est déjà mieux que rien, évidemment. On aimerait que ce soit encore plus, parce qu'on aimerait que ça n'existe plus. Mais bon, voilà, voyons le côté positif des choses. Ça a quand même bien évolué par rapport aux années 80, 90, voire même 2000.
Non, mais c'est sûr. Et puis même, je pense... Enfin, moi, je reste optimiste. Je me dis que si c'est égal là, au bout d'un moment, ils peuvent plus le faire. Ils vont peut-être arrêter de le faire. Si à chaque fois, ils sont engueulés, tapés dessus, ça va plus être fun pour eux non plus. Hein. Donc, voilà.
Je voulais juste évoquer, en fait, la fin du jeu. Oui. Parce que toi, tu t'es arrêté effectivement dans le métro. Moi, j'avais continué jusqu'au bout.
T'es arrivé.
Je suis arrivé au boulot.
Ok.
Je suis arrivé au boulot où j'ai rencontré un collègue sympathique en plus, qui arrive de façon très très joyeuse, qui est là pour te féliciter pour ta promotion.
Ah, parce que tu l'as piqué sa place.
Tout en t'expliquant que bon, si tu l'as eu cette promotion, c'est parce que t'es une femme
et que t'as couché ou un truc
ou
comme ça.
Ou parce qu'une question de quota, mais enfin qu'il y avait une question comme ça. En gros, on vient t'expliquer gentiment que bravo, mais c'est pas mérité.
Ouais.
C'est le message en fait que tu entends en fait à ce moment-là et celui-ci. Je voulais juste évoquer ça parce qu'on on arrive vraiment au tout bout de l'émission. mais ça fait effectivement partie des éléments que tu évoques dans le jeu, c'est effectivement le sexisme ordinaire en entreprise, dans ce type de relation, de pouvoir, de hiérarchie, d'évolution de carrière, qui est pas non plus à négliger, mais qui est également présent dans le jeu, sous cette forme-là en tout cas.
Mais juste, oui, effectivement, le sexisme ordinaire est aussi un problème, c'est-à-dire que Là, le jeu parle de cette violence verbale qu'on a, ou même des agressions, hein, parce qu'on peut subir des agressions dans le jeu, qu'on a dans la rue, dans les espaces publics. Mais quand on arrive au travail, il y a ce sexiste ordinaire qui est peut-être plus subtil, mais qui reste violent, en fait. Il y a quand même cette violence, puisque c'est comme si elle n'était pas vraiment à sa place.
En gros, c'est moins frontal, mais c'est tout aussi rabaissant.
C'est pas la même chose qu'on vient de t'exprimer. On vient pas d'exprimer, effectivement, quelque chose on vient de te dire que t'es pas légitime dans ton activité professionnelle. Enfin, ce qui est, je trouve ça tout aussi frontal d'une certaine façon. Moi, je l'ai vraiment.
La violence est
symbolique différente.
Ça vient évoquer autre chose, ouais, complètement.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et effectivement, après, une fois que t'as passé ce cap, parce que en fait, vu que le travail est l'objectif, quand les gens arrivent au travail, ils ont l'impression que
on a gagné.
Et non, hop, ça recommence. Et à la fin, il y a la diapo finale qui indique les chiffres, puisque c'est quand même plus de 80% des femmes en France qui sont victimes de harcèlement sexiste et sexuel. Donc c'est un chiffre énorme. Et les gens apprennent à ce moment-là que les dialogues sont issus de vrais témoignages. Et c'est glaçant, parce que souvent, même si le jeu a un côté un peu dur, les gens ils rigolent un peu. Surtout les gars, tu vois.
Oui, parce qu'ils s'imaginent que c'est pas vrai, que c'est trop,
que c'est
trop
exagéré, que c'est caricatural.
Ça donne envie de rire
Il y a des gens qui rigolent un peu nerveusement, parce qu'il y a un peu un défi. Notamment, certains hommes, je les prends un peu par fierté quand je fais des playtests et tout ça. Je leur dis, t'as envie de te faire insulter pendant un quart d'heure? Et ils sont là, non, oui, oh, allez, j'essaye. Un peu par fierté. Et du coup, ils ricanent un petit peu pendant le jeu en se disant, c'est exagéré, etc. Et quand ils voient le message de fin, généralement, ça fait un choc.
J'avais plein d'autres questions.
Est-ce que tu rappellerais pas déjà où est-ce qu'on peut trouver le jeu?
Le jeu est téléchargeable gratuitement sur le site jeu également, et ainsi que sur itch.io.
Donc il faut chercher Big Badger Street.
Voilà.
Il y a un site web où on peut trouver des infos, notamment sur le harcèlement sexiste, assez documenté. Et puis effectivement sur itch.io, à Yolen, on peut trouver Big Badger Street.
Yolen, H-I-O-L-E-N.
Bravo.
C'est ça. Voilà, c'est toujours amener des professionnels avec soi quand on fait l'émission. Merci beaucoup, Morgane.
Mais avec plaisir.
J'espère que tu as pu exprimer ce que tu voulais. Nous, on voudrait une heure d'émission en plus, mais je pense que ça toque à la porte, donc il va falloir. Il va être temps. Donc, comme je disais, ton jeu Big Badger Street est trouvable gratuitement sur le site du jeu. Le site du même nom, c'est bigbadgerstreet.com, si je dis pas de bêtises.
Alors sur itch.io, déjà première chose. Ouais. Et le site c'est .fr.
Également.
Disponible en français et en cours de traduction.
Alors,
tu me disais.
En cours de localisation, effectivement.
En anglais et d'autres langues,
En anglais déjà.
Okay. Oui, c'est déjà.
Et c'est pas évident parce que du coup traduire les différents niveaux de langage.
Pas de la traduction, c'est de la localisation comme tu dis, et c'est donc l'adapter à des références locales.
C'est pas si simple.
Qui ont du sens, et du coup faut trouver vraiment des locuteurs locaux.
Oui. J'avais plein de questions, notamment sur les origines des données que tu as mis dans le jeu, et surtout comment tu le traduis correctement.
On refera une émission.
Une autre émission, tu reviens quand tu veux. C'était extrêmement intéressant. En tout cas, comme chaque semaine, on remercie Collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canu pour l'accès au studio. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission où on parlera sûrement de trucs.
Je pense que c'est... tu t'avances pas trop en disant ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, on se retrouve jeudi prochain à 21h sur Radio Canu. Merci Bettina.
Merci Xavier, merci Romain, merci Morgane.
Merci à vous.
Merci à tout le monde. Salut, bonne soirée.